Vous écoutez France Culture, il est 12h30, l'heure du journal présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Isabelle. Et bonjour à tous. Deux personnes déjà ont trouvé la mort au Texas suite au passage de l'ouragan Harvey. Il va continuer à provoquer des inondations extrêmement graves. Nous entendrons la correspondance de Philippe Randé. En Colombie, les FARC essayent d'opérer leur mutation. Après plus de 50 ans de rébellion armée, ils veulent devenir un parti politique. Leur congrès s'ouvre aujourd'hui à Bogota. Nous entendrons l'analyse de la spécialiste de l'Amérique latine, Sophie Davio. L'université d'été de la France insoumise s'achève aujourd'hui à Marseille avec le discours de son leader, Jean-Luc Mélenchon. Que retenir de cette intervention. Sophie Delpont nous le dira en direct de Marseille. 12 élèves par classe en CP dans les zones d'éducation prioritaire, c'était l'un des engagements présidentiels d'Emmanuel Macron. Est-ce facile à mettre en place à quelques jours de la rentrée? Reportage dans la banlieue lyonnaise de Mathieu Péris à venir dans cette édition. Au Texas, l'ouragan Harvey peut donc déjà être considéré comme meurtrier. Une personne est morte hier dans l'incendie de sa maison à Rockport, petite ville de 10 000 habitants à 50 km au nord de Corpus Christi. La police de Houston a également annoncé qu'une femme avait péri alors qu'elle circulait dans des rues totalement inondées de l'ouest de la ville. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, annonce par ailleurs que 20 comtés supplémentaires sont décrétés en état de catastrophe naturelle. Sur place, les précisions de Philippe Randé.
Petit à petit, Harvey se transforme en une véritable machine à pluie, déversant des litres et des litres d'eau sur cette région de Houston où je me trouve en ce moment. Une machine qui, si elle a perdu de sa force depuis hier, n'a pas perdu de son endurance, et c'est bien ce que craignent les spécialistes depuis le début. Harvey est bloqué au-dessus du Texas et la situation est très délicate en ce moment ici. Les inondations ont débuté dans les rues de Houston où les automobilistes ont souvent abandonné leur voiture. Il est parfois tombé 10 cm d'eau en une heure dans cette gigantesque métropole de 5 millions d'habitants, la quatrième plus grande ville des États-Unis. Rajoutez à cela l'autre spécialité de Harvey, si j'ose dire, les multiples tornades qui se déclenchent un peu partout. Des tornades qui sont annoncées par un système d'alerte sur les téléphones portables et sur les panneaux des autoroutes, demandant aux habitants de se mettre immédiatement à l'abri. Des tornades qui ont endommagé plusieurs dizaines de maisons. Des rivières menacent également de déborder, entraînant des ordres d'évacuation. Et ce qui inquiète évidemment, c'est que Harvey devrait stagner ici au-dessus de nos têtes dans cette région entre Houston et San Antonio jusqu'à jeudi.
À noter également que Hong Kong et Macao ont été frappés par une violente tempête, aujourd'hui baptisée Pacar, qui a fait 62 blessés, quelques jours seulement après le typhon Hato, qui a touché le sud de la Chine et fait au moins 18 morts. Aux États-Unis, on y revient. Cette information du Washington Post qui confirme que, décidément, Donald Trump n'hésite pas à intervenir parfois dans le cours de la justice. Le président américain, on l'apprend donc aujourd'hui, avait demandé au procureur général Jeff Sessions de renoncer à poursuivre Joe Arpaio. Cet ancien shérif, soutien de Donald Trump, avait été reconnu coupable de s'acharner contre les immigrés hispaniques de manière discriminatoire. Le président américain avait donc demandé à cette époque, dans un premier temps, à la justice de classer le dossier. Celle-ci lui avait répondu non. Il avait alors décidé de laisser faire et de gracier son ami si jamais il était condamné. C'est donc ce qui s'est produit, on le sait, vendredi soir. La Maison-Blanche a accordé à ce shérif un pardon présidentiel. Les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, réunies aujourd'hui à Bogota pour discuter de l'avenir du mouvement. Près d'un an après avoir déposé les armes suite aux accords de paix, les membres du mouvement veulent se lancer dans la politique. Jusqu'à jeudi, les représentants des ex-guerrilleros vont donc choisir, entre autres, leur futur candidat pour les élections de l'année prochaine. Écoutons l'analyse de Sophie Davio, maître de conférence à Sciences Po, ex spécialisée sur l'Amérique latine.
Il y a une grande question qui se pose, grosso modo, il y a deux tendances dans ce nouveau parti des FARC qui ont l'air de se profiler. Soit les FARC continuent et suivent leur doctrine marxiste-léniniste au pied de la lettre, soit elles parviennent à se projeter à travers une ligne beaucoup plus progressive qui sera susceptible de rassembler différents partis de centre gauche, pourquoi pas même du parti conservateur colombien, autour d'un projet qui sera davantage centré sur l'application des accords de paix. Puis il y a aussi une question qui va être abordée bien sûr lors de ce congrès, c'est la question de la sécurité qui est une question essentielle. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire de la politique dans des conditions de sécurité acceptables? On sait très bien que la seule fois où les FARC ont pris le risque de se transformer en parti politique, c'était en 1985. Les FARC avaient créé l'Union Patriotique et malheureusement, plus de 3000 militants de ce parti politique ont été assassinés depuis la fin des années 80. C'est resté un traumatisme pour les FARC. Elles ont très peur que leurs militants se fassent à nouveau assassiner par des forces paramilitaires, par des groupes d'extrême droite, par des gens opposés au processus de paix. Et c'est un risque réel puisqu'il y a déjà plus d'une quinzaine d'ex-combattants des FARC qui ont été assassinés en Colombie depuis la signature des accords de paix, plusieurs leaders sociaux, etc. Donc est-ce que le gouvernement sera capable de garantir cette sécurité dont ont besoin les FARC pour réaliser cette transformation politique?
Propos recueillis par David Ravier. Un homme de 30 ans arrêté à Londres aujourd'hui, il est soupçonné de lien avec l'attaque de policiers qui s'est déroulée vendredi soir devant le palais de Buckingham. Il s'agit de la deuxième personne arrêtée dans cette affaire après l'assaillant lui-même. On apprend également que le bilan des attentats du mois d'août en Catalogne est désormais passé à 16 morts avec le décès d'une Allemande de 51 ans. En France, c'est aujourd'hui la clôture de l'université d'été de ce qui est finalement l'un des principaux, sinon le principal parti d'opposition à Emmanuel Macron, à savoir la France insoumise. Son leader Jean-Luc Mélenchon est en train de prononcer son discours, qui était bien sûr très attendu par les militants réunis ce week-end à Marseille. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Alors vous êtes sur place donc à Marseille. Que faut-il retenir pour ce moment de ce discours de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas encore terminé ?
Pas de blabla, du combat, lance Jean-Luc Mélenchon qui promet que la vague dégagiste va reprendre et s'amplifier depuis cette place du refuge dans le quartier populaire du Panier, sous un soleil de plomb. Un discours très offensif qui rappelle les accents de la présidentielle. Un appel à une mobilisation massive contre la loi travail, appel répété à manifester à Paris le 23 septembre prochain contre ce qu'il qualifie de coup d'état social, contre un gouvernement des riches pour les riches, en référence à la suppression de l'imposition des actions dans le calcul de l'ISF. Il lance en parallèle qu'on vous fait les poches sur les APL. Jean-Luc Mélenchon qui réaffirme sa position de premier opposant à Emmanuel Macron. On a l'impression d'un retour à l'ambiance glauque du précédent quinquennat en référence à la chute de la popularité du chef de l'État dans les enquêtes d'opinion. Jean-Luc Mélenchon accuse le gouvernement d'avoir fait diversion avec la loi de modernisation, la loi de moralisation, affirmant que la priorité serait de faire la chasse aux corrupteurs et aux fraudeurs du fisc. À la déclaration d'Emmanuel Macron sur le fait que les Français détesteraient les réformes, il répond que ce sont vos réformes que le peuple rejette. Il martèle l'importance cruciale de la mobilisation du 23 septembre prochain pour cimenter la place de la France insoumise comme fer de lance de l'opposition, dans l'objectif de faire reculer le gouvernement sur les ordonnances et de lancer une dynamique de conquête du pouvoir pour les prochaines années. Dans une gauche éclatée, nous ne participerons à aucune tambouille, quelle qu'elle soit, avec qui que ce soit, réaffirme le leader de la France insoumise.
Merci à vous donc Sophie Delpont en direct de Marseille avec la réalisation technique de Clémence Bonfils. C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, 12 élèves par classe en CP dans les zones d'éducation prioritaire. Alors l'idée peut être séduisante sur le papier, mais reste très compliquée à mettre en œuvre. Les syndicats d'enseignants et les instituteurs affirment manquer de locaux ou encore de personnel, à tel point que le SNUIPP-FSU appelle à la grève le jour de la rentrée, le 4 septembre. Reportage de Mathieu Péris dans la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin.
Beaucoup d'improvisation, c'est ce qui résume le mieux la situation. D'après Benjamin Grandonneur, il est co-secrétaire SNUIPP-FSU du Rhône et instituteur à Vaux-en-Velin. Dans cette ville, l'une des plus pauvres de l'agglomération, ce sont 32 classes que la mairie a dû créer en quelques semaines.
À des endroits, elle a réhabilité des salles qui n'étaient pas des salles de cours pour les retransformer en salles de cours. Je sais qu'à d'autres endroits, elle a installé des véritables cloisons. D'autres endroits, les équipes ont fait le choix de faire des classes à 24 avec deux enseignants. Toute l'année va être sous le sceau de l'urgence.
On pousse les meubles, on réquisitionne la salle du périscolaire. Certaines classes n'ont pas encore de bureau ni de livres dans la bibliothèque. Mais pour Benjamin Grandonner, le plus grave est ailleurs.
La fin d'un dispositif auquel on tenait énormément, qui était les maîtres supplémentaires, qui étaient présents dans toutes les écoles de REP+, de l'éducation prioritaire renforcée, et qui était un dispositif qui fonctionnait et qui est supprimé pour financer les CPA 12.
Le syndicaliste dénonce surtout une simple redistribution des moyens sans véritable création de postes, et ce, alors même qu'il est favorable à une baisse des effectifs dans les classes.
C'est évident qu'on apprend mieux quand il y a moins d'élèves, mais pourquoi que les CP ?
On habille le CP pour déshabiller tout le reste finalement ?
Exactement. Si 100% de réussite en CP, ça veut dire 20% de réussite en CM2, c'est vraiment pas juste pour nos élèves.
Cette année, 2500 classes de CP ont été dédoublées en REP+. À terme, 12 000 classes seront concernées.
On apprend aujourd'hui le décès du cinéaste américain Toby Hooper. Il était âgé de 74 ans, grand maître du fantastique, de la science-fiction ou encore de l'horreur. Il avait signé plusieurs films qui aujourd'hui font figure de classiques. On peut notamment citer les célèbres Poltergeist ou encore Massacre à la tronçonneuse qu'il avait révélé au grand public dans les années 70. Quelques orages sont attendus cet après-midi sur les Pyrénées ainsi qu'en Auvergne et en Normandie. Un grand soleil brillera sur les régions méditerranéennes ainsi que sur les régions proches de la Manche. Les températures de cet après-midi partiront de 21 degrés le long de la Manche. Justement, elles monteront jusqu'à 32 dans le Lot. Édition préparée avec Martin Descloseau, réalisée à la technique par Jacques Hubert.